Bonjour à tous. Ça fait toujours du bien cette prière avant la prédication. C'est une grande joie à chaque fois d'ouvrir la parole pour entendre, pour laisser parler Dieu. Mais cette semaine, en préparant ce moment et en réfléchissant à ce moment, j'ai réalisé vraiment le privilège, mais aussi la grande responsabilité. Et nous le réalisons surtout quand nous lisons Jacques chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Et donc c'est important qu'on prie, et j'espère que ce matin je vais être fidèle au message du texte qu'on va voir ensemble ce matin, que Dieu m'aide vraiment et qu'on puisse vraiment l'écouter. Et pour commencer, j'aimerais qu'on voit ensemble une pub d'Apple et pour son iPod. Et ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est la simplicité en fait du message. C'est facile de comprendre ce que fait cet appareil électronique. Il permet d'avoir 10 000 chansons dans notre poche. Et l'iPod, le tout premier, maintenant je ne sais pas si c'est 10 000 au plus, mais le tout premier, il permettait déjà d'avoir 1000 chansons dans la poche. Et c'est le fameux Steve Jobs, qui, pour ceux qui connaissent, qui l'a très bien présenté. Et on dirait dans ces messages qu'on n'a plus besoin de vendeurs. On n'a plus besoin de quelqu'un qui nous explique ce que c'est un kilo-octet, un giga-octet, un méga-octet, tous ces mots-là. Et si vous ne le comprenez pas, c'est la raison pour laquelle Apple ne les a pas utilisés dans son message, son slogan. Apple n'a pas communiqué avec des mots techniques, mais a cherché à utiliser des mots qui sont compréhensibles par la plupart des personnes. Mon but n'est vraiment pas de vous faire acheter un iPod. Vous savez, Apple, s'il payerait pour toutes les fois où leur marque est mentionnée, eh ben, ça serait une fortune. Mais ils ont réussi à faire ce que d'autres marques n'arrivent pas, c'est que souvent on parle d'eux et ils ne payent rien. C'est le cas ce matin encore. Malgré cette publicité excellente, ils n'ont pas réussi à me faire acheter un iPod. Je le dis, j'écoute de la musique avec mon Nexus, et ça c'est juste une petite dédicace pour quelqu'un dans la salle. Un certain Mathieu, vous. Voilà. Donc, voilà, je pense que je vais être pardonné d'avoir mentionné Apple, parce que j'ai mentionné aussi Nexus. Voilà. Le but en vous montrant cette publicité est vraiment de nous rappeler le grand besoin d'expliquer de manière compréhensible et adaptée le message de Christ, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle dans un monde où tous les jours, il y en a des mauvaises. Nous vivons dans une culture séculière, c'est-à-dire une culture où Dieu, l'Église ont été mis de côté. La plupart ne savent pas ce que nous mettons derrière le mot Dieu, Église, Jésus, etc. Et cela n'est pas quelque chose de très nouveau finalement, puisque Paul, en 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, parle déjà du besoin de nous adapter aux personnes pour qu'elles puissent comprendre l'Évangile. Et c'est le texte qu'on va voir ce matin. Lisons donc ensemble 1 Corinthiens 9, du verset 19 à 23. Donc il est aussi affiché ici pour ceux qui veulent suivre à l'écran. Donc je vais lire ce texte. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. J'aime beaucoup ce texte, et je crois qu'il nous lance, à nous chrétiens, un appel important. Essayez par tous les moyens possibles de rendre l'Évangile compréhensible. Essayez par tous les moyens possibles de rendre l'Évangile compréhensible. C'est ce que Paul a fait. Et pour pouvoir le faire, il faut un état d'esprit de serviteur et enlever toutes les barrières inutiles à la compréhension de l'Évangile. Paul écrit ici à l'église de Corinthe, une ville au sud de la Grèce pour ceux qui aiment la géographie. Et son but en donnant ici son exemple est que les chrétiens auxquels il écrit puissent adopter cette manière de vivre qu'il avait, se faire tout à tous, afin d'en gagner quelques-uns. Nous devons nous faire tout à tous pour faire comprendre la meilleure des nouvelles. L'Évangile, dans un monde où tous les jours, il y en a des mauvaises. Je crois qu'on peut dire avec certitude que l'apôtre Paul est un des hommes qui a le plus annoncé l'Évangile et a donc participé à la transformation d'énormément de vies pour l'éternité. Cependant, cela lui a coûté beaucoup. Mais il était clair sur ce qu'il devait faire. Me faire tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Cette église de Corinthe, en lisant ce texte, avait la réponse à une des questions qui se posaient à l'époque sur la viande sacrifiée aux idoles, à des faux dieux inventés de toutes pièces par les hommes. Pour faire court, comme nous l'a rappelé Stéphane dans sa prédication « Jusqu'où va ma liberté ?» il y a un peu moins d'un mois, et que je vous invite à écouter vraiment si vous n'avez pas pu être là. Il nous avait bien expliqué qu'à l'époque, le meilleur moyen de manger un beefsteak était d'aller l'acheter dans des temples où les viandes étaient sacrifiées à des idoles, à des faux dieux. Et les chrétiens se posaient donc la question, est-ce que je peux ou non manger de ces viandes? Avec 1 Corinthiens 8, versets 1 à 13, nous avons vu avec Stéphane que l'amour est supérieur à la connaissance. La réponse à cette question est simple. Je peux manger de ces viandes, mais si cela choque un autre chrétien, mon frère ou ma sœur en Christ, je ne mangerai pas de ces viandes par amour pour lui ou pour elle. Voilà la réponse à cette question. Mais ici, Paul va un petit peu plus loin. Il va un petit peu plus loin dans ce débat. Et il dit, en gros, avec ce texte, on comprend que si on est invité par un non-chrétien qui nous met devant nous un bon beefsteak qui a été sacrifié aux idoles, est-ce que je dois le manger ou pas? La réponse est un grand oui, parce que manger ce beefsteak, c'est me faire tout à tous afin de les gagner à Christ. C'est vraiment m'adapter à ces personnes avec qui je passe du temps pour qu'ils puissent peut-être à ce moment-là, entendre l'Évangile au un jour ou l'autre. Ce texte a donc été premièrement écrit pour répondre à cette question qui se posait à l'époque sur les viandes sacrifiées aux idoles. Et en 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33, Paul dit pour conclure sur cette question, « Ainsi donc que vous mangiez, que vous viviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Le but ultime de Paul était le salut de ceux qu'il côtoyait, juifs, non-juifs, faibles, forts, etc. Avec loi, sans loi, la liste. Le salut, on l'a déjà vu, mais c'est le pardon des péchés. C'est le pardon de tout ce qui n'est vraiment pas glorieux dans nos vies, de tout ce qui est contraire à ce que Dieu nous demande. Et cela nous condamne pour l'éternité, à moins que nous acceptions que Jésus est notre Sauveur, celui qui est mort sur une croix il y a 2000 ans pour qu'on puisse être pardonné et que nous l'acceptions également comme notre Seigneur, pour notre plus grand bien, notre Seigneur pour l'éternité, pour notre plus grand bien, car il sait ce qui est le meilleur pour nous. Premièrement, on voit que Paul, pour réaliser ce but qu'il avait de participer au salut de ceux qu'il côtoyait, il s'est fait le serviteur de tous. Dans les versets, juste avant le texte qu'on a lu, de 1 Corinthiens, on voit que Paul avait le droit d'être soutenu financièrement pour le travail qu'il faisait dans l'Église. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, nous pouvons lire « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel ? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Paul avait ce droit de prédicateur, mais il a décidé de ne pas être soutenu par l'Église. Son but était très simple, de faire comprendre que son intérêt premier dans le travail qu'il faisait dans l'Église n'était pas financier, mais que son intérêt était leur salut. Nous pouvons être ici touchés par l'amour de l'apôtre Paul. Parfois, en lisant ses lettres, je suis bouleversé par son amour, et nous le voyons dans d'autres lettres qu'il aimait véritablement ceux qu'il servait. En 1 Thessaloniciens 2, verset 8, nous pouvons lire « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » L'amour pour notre prochain doit nous emmener à avoir une attitude de serviteur, où l'ultime but est leur salut. Paul était prêt à perdre sa liberté. Je le répète encore, il avait le droit, mais il n'a pas utilisé ce droit. Et il ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'à Corinthe, pour lui, c'était une manière de faire comprendre qu'il n'était pas intéressé par leur argent, mais qu'il était intéressé par leur salut. Il voulait qu'ils comprennent avant tout le message qu'il annonçait. Dieu pardonne si nous lui demandons pardon et si nous l'acceptons comme notre Seigneur, qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Voilà en résumé ce qu'il leur a annoncé et réannoncé. Paul a montré son attitude de serviteur de manière très concrète, en enlevant toutes les barrières inutiles à la compréhension de l'Évangile. Paul était juif, il connaissait très bien la culture juive. Il s'adaptait donc jusqu'à une certaine limite à toutes les cultures juives quand il était avec un juif. Paul a par exemple circoncis Timothée, un de ses collaborateurs qui a été à ses côtés et qui l'a beaucoup aidé. Et on peut se demander, mais pourquoi il a circoncis Timothée ? Enlever le prépuce des garçons à l'âge de 8 ans, ce n'est plus quelque chose de valable après la venue de Jésus-Christ. C'était quelque chose qui était demandé, comme nous pouvons le confirmer avant la venue de Jésus-Christ. Par exemple, en Genèse chapitre 17, c'était le signe de l'alliance avec Dieu. Mais cela n'était plus valable après la venue de Jésus-Christ. Mais Paul l'a tout simplement fait, parce que cela aurait pu être un obstacle pour l'annonce de l'Évangile aux Juifs. Il a donc circoncis Timothée, tout simplement pour faciliter la tâche. Il y a des choses bien plus importantes que la circoncision. Et pour éviter des discussions sur la circoncision, Paul a circoncis Timothée. Paul a donc obéi à des commandements de la loi de Moïse qui n'étaient plus valables, tout simplement pour gagner plus facilement les Juifs, ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Paul a aussi bu et mangé en compagnie de non-chrétiens. Il a sans aucun doute fait la fête avec eux, tout simplement pour leur montrer de manière très concrète son amour en passant du temps avec eux. Il passait du temps avec ses amis, ses voisins, etc. Sans aucun doute, Paul avait aussi compassion de ceux qui souffraient. Peut-être qu'il leur parlait comme s'il aimerait qu'on lui parle, s'il était malade. Pour vous donner un exemple d'un homme qui m'a vraiment beaucoup impacté quand j'ai lu sa biographie, Hudson Taylor a été missionnaire en Chine au 19e siècle et il s'habillait là-bas comme un Chinois. Il avait les cheveux en queue comme un vrai Chinois là-bas, même si la mission qu'il a envoyée d'Europe n'appréciait pas trop, ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. Il s'est mélangé au peuple chinois et il a vécu comme un Chinois. C'est un amour énorme et c'était très sage de sa part parce que, sans aucun doute, il est plus facile de gagner une église de Chinois en devenant Chinois. Est-il possible de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans une piscine ou à la plage si on ne plonge pas dans l'eau? La réponse est non. Et si Paul, Hudson Taylor et bien d'autres se sont faits tout à tous afin d'en sauver quelques-uns, c'est parce que Jésus lui-même l'a fait. Si nous, chrétiens, nous devons nous adapter sans compromettre la loi morale de Dieu et le message de la croix que nous avons chanté dans un chant, ce message qui dit que Jésus est mort sur la croix pour sauver des pécheurs qui seront condamnés par Dieu s'ils n'acceptent pas le pardon qu'il aurait offert aujourd'hui. Demain pourra être trop tard. Si nous devons nous adapter sans compromettre la loi morale de Dieu et le message de la croix, c'est parce que Jésus lui-même l'a fait. Jésus lui-même s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis, comme nous dit 2 Corinthiens 8, 9. Nous avons chanté au-dessus de tout. Jésus, il était au-dessus de tout et il s'est abaissé jusqu'à nous. Vous imaginez, Dieu est venu naître dans une famille pauvre, Marie et Joseph, pour que nous puissions être enrichis, c'est-à-dire sauvés. Jésus-Christ, lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Je viens de lire trois versets bien connus dans Éphésiens 2, versets 6 à 8. Ce n'est en aucun cas une déformation du message de l'évangile de la croix, au pire encore de la manipulation ou une violation de la loi morale de Dieu, de nous adapter aux personnes qui nous entourent pour qu'elles puissent comprendre le message de l'évangile. Ce n'est pas tout ça, une déformation du message de l'évangile. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une violation de la loi morale de Dieu, mais c'est tout simplement une preuve d'amour. Jésus l'a fait et c'est pour nous la plus grande preuve d'amour. Jésus a plongé dans un océan avec beaucoup de vagues violentes pour sauver tous ceux qui réalisent qu'ils sont en train de se noyer. Luc 7, verset 34, « Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. » Et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Jésus passait du temps avec des personnes pas très aimables ou qui étaient rejetées par la société pour leur montrer de manière très concrète son amour pour eux. Et il était vu comme un glouton, un buveur et un ami des pêcheurs. Est-ce que nous sommes vus comme des amis des pécheurs? Avant Paul, Hudson Taylor et bien d'autres, c'est Jésus lui-même qui nous a montré par excellence comment nous faire tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Bien évidemment, ce n'est pas un encouragement à nous mettre en danger. Pendant mes années d'études à Valence, alors que j'étais tout jeune chrétien, donc j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et administration, et c'est bien réputé pour faire bien la fête le jeudi soir. Et j'ai décidé de n'aller à aucune soirée étudiante, tout simplement parce que ça allait me mettre vraiment, vraiment en danger. Après ma conversion, j'ai décidé aussi d'arrêter le foot en club. J'avais des amis qui n'étaient pas des très bonnes fréquentations pour moi, et j'étais incapable de les influencer dans la bonne direction. Alors, j'ai décidé, j'arrête le foot. Aujourd'hui, je crois que je pourrais jouer dans un club de foot sans aucun problème, que je pourrais aller à une pré-soirée, à l'apéro le jeudi soir, sans aucun problème, ou en tout cas avec beaucoup moins de problèmes. Chacun de nous doit connaître ses limites, mais nous isoler, c'est impossible et ce n'est pas biblique. Les monastères, c'est juste une invention humaine. Il faut vivre dans ce monde sans adopter des attitudes et des activités qui sont clairement des péchés ou qui nous influencent vraiment vers le péché. Nous pouvons trouver énormément d'applications pratiques. Si nous travaillons avec des enfants, annonçons-leur l'évangile en étant des enfants. Si vous travaillez avec des jeunes, eh ben, soyez jeunes. C'est peut-être difficile, mais c'est peut-être le meilleur moyen de les atteindre. Et Paul, je ne sais pas, mais je me suis imaginé chez moi, s'il était là aujourd'hui, je pense qu'il aurait un compte Facebook. Je me dis, mais je pense qu'il l'aurait. Je pense qu'il aurait même peut-être un compte Twitter, j'en sais rien. C'est peut-être un moyen et par excellence pour lui aujourd'hui, enfin, ce serait un moyen d'annoncer l'évangile. Peut-être même qu'il aurait un Pinterest, même s'il n'y a que des filles sur ce réseau social. Il publierait, je ne sais pas, peut-être des citations, parce que les filles, elles aiment bien les citations inspirantes sur ce réseau social. Elles font un petit tableau où généralement elles mettent toutes les citations inspirantes. Pour Snapchat, on lui demandera peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voyez ce que je veux dire. Même pour moi, c'est difficile. Je me sens déjà parfois dépassé par les ados avec leur application Snapchat. Je l'utilise à peine. Je ne comprends pas trop encore son utilité. Mais c'est leur application préférée. Et peut-être que nous devons nous intéresser à ce qu'ils vivent. Pourquoi ils l'utilisent? Parce que c'est un moyen de mieux les comprendre et peut-être de leur témoigner de l'amour et pour qu'ils nous écoutent et quand on va parler de choses très sérieuses de l'évangile. Tellement de choses peuvent être influencées par ce texte. La décoration de notre église, et j'aime ce qui est fait pour la vitrine et tout ce qui a été fait et continue à être fait pour cela et dans d'autres domaines. La communication dans notre église qui continue à être travaillée. La musique, avec peut-être des nouveaux chants qui vont toucher d'autres personnes. L'aide matérielle qu'on apporte à ceux qui en ont bien besoin. Des couches pour enfants, tout plein de choses, de la nourriture. Les prédications, l'enseignement, qui doivent être le plus compréhensible possible pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. N'oublions jamais que des amis à nous viennent chaque jour ici. Et désolé si vous ne comprenez pas parfois ce qu'on veut dire. C'est difficile peut-être pour vous d'être là et de parfois ne pas comprendre certains mots. Et nous devons faire attention. Définissons ces mots. Rappelez-vous d'Apple. Ils sont quand même un exemple pour moi, je pense, dans ça. C'est qu'ils essayent d'utiliser les mots les plus simples pour faire comprendre quelque chose. Si nous utilisons des mots techniques, définissons-les. Pour que tout le monde puisse comprendre ce message de l'évangile. Je pense que Paul faisait cet effort. Certes, nous l'avons vu, le message de la croix est choquant. Et parfois, même en nous adaptant, des personnes seront toujours choquées et ne voudront pas nous entendre. Mais au moins, on aura fait l'effort. S'ils nous rejettent, ce n'est pas nous. Enfin, s'ils rejettent, ce n'est pas nous, mais le message que nous annonçons. Ça doit être notre but, que les gens rejettent le message et pas les messagers. D'où l'importance de travailler nos messages. C'est vraiment un défi, parfois, de faire comprendre l'évangile avec des simples mots et de manière totalement adaptée. Notre manière de cultiver aussi nos amitiés peut être influencée par ce texte. Nous serons plus à l'écoute pour mieux comprendre, pour mieux aimer et servir. L'appel que Dieu nous lance ici est difficile. Essayez, par tous les moyens possibles, de rendre l'évangile compréhensible. Mais nous voulons ressembler plus à Jésus, qui n'a pas juste envoyé une lettre, mais qui est venu lui-même sur cette terre nous montrer qu'il nous comprenait. Jésus n'a pas juste envoyé une bouée de sauvetage, mais il a plongé dans la mer. Il est venu nous chercher là où on était, à nous, à notre tour, de faire pareil. Je finis avec un exemple qui a transformé ma vie pour l'éternité. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai pu, pour la première fois de ma vie, entendre de manière claire le message de l'Évangile. Avec plus ou moins ces mots, Dieu nous pardonne de nos péchés, non en fonction de ce qu'on fait, mais à cause de ce que Jésus a déjà fait à la croix. Et nous avons juste à lui demander pardon et vivre la meilleure des vies qu'il nous offre, qui n'est pas toujours facile, mais qui est la seule vie qui en vaut la peine d'être vécue. J'étais en seconde à l'âge de 15 ans, et c'est Hugo, un Brésilien qui m'a annoncé l'Évangile et encouragé à lire la Bible. Mais il ne m'a pas seulement annoncé l'Évangile. Il a passé énormément de temps avec moi. Il a essayé de me connaître plus. J'étais avec lui pendant toute une année scolaire, ou plutôt il a été avec moi pendant toute une année scolaire. Et il a laissé un impact énorme sur ma vie. Je me souviendrai toujours des temps passés à jouer à la guitare où il m'a appris le premier chant chrétien. Je me souviendrai toujours des différentes discussions autour du foot. Il me parlait de son joueur peut-être préféré, Kaka, un joueur pas comme les autres, il était chrétien. C'était pas mal du tout pour quelqu'un comme moi qui était fou de foot. Il s'adaptait pour toucher le plus profond de mon cœur. Avant de partir au Brésil, il m'a dit « Écoute, Ricardo, je sais pourquoi je suis venu en France. S'il avait un an de plus, il ne serait jamais venu en France. S'il avait 18 ans, il avait 17 ans, il serait resté au Brésil comme son frère. Il est venu, il n'a pas tout compris au début, mais il est venu. Et à la fin, il m'a dit « Je sais pourquoi je suis venu. Je suis venu pour que tu sois sauvé. » Ça m'a vraiment bouleversé et j'en ai pleuré toute une journée. Mes parents étaient un peu, comprenaient pas trop ce qui se passait ce jour-là, mais j'en ai pleuré toute une journée. Et en fait, je suis vraiment reconnaissant envers Hugo qui a mis ce texte en pratique. Se faire tout à tous afin de gagner quelques-uns. Et malgré le fait d'avoir eu un excellent exemple dans ma vie, je me suis converti grâce à Hugo qui a mis vraiment ce texte en pratique. Je crois que je l'oublie bien souvent et nous avons besoin de nous rappeler sans cesse ce but ultime que Dieu nous a laissé de nous faire tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. Étudiants, retraités, personnes de différentes catégories sociales, de différentes professions, différentes origines, différentes religions, etc., que nous puissions nous faire tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. Que Dieu nous aide à aimer d'un amour comme celui de Jésus, qui est venu et qui nous a montré par excellence comment nous faire tout à tous. Je vous invite à prier. Père, merci. Merci parce que ton évangile est vraiment extraordinaire. Se faire tout à tous fait partie de l'évangile, Seigneur. Nous voulons vivre cet évangile. Nous voulons vivre comme Jésus. Et pardon, Seigneur, parce que bien souvent, nous sommes loin de faire tout cela. Et Père, aide-nous à vraiment être une église qui se fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. Aide chacun de nous, Seigneur, sur nos lieux de travail, école, à nous faire tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. Seigneur, que tu nous aides par ton Saint-Esprit à vivre une vie, Seigneur, qui donne envie à ceux qui nous entourent. Aide-nous à les servir, les aimer, les écouter. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, tout simplement, aimer nos prochains, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être des lumières, des témoins, là où tu nous places, Seigneur. Que vraiment tu viennes nous aider, Seigneur, à accomplir ce que toi, tu as prévu. Aide-nous à accomplir cette mission que tu nous as laissée. Seigneur, nous sommes incapables par nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous jour après jour, jusqu'à ton retour, jusqu'à notre mort, à vivre ce que tu nous demandes de vivre, nous faire tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.